OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Ce soir, on va regarder une discipline un petit peu particulière, la journalisation. On va voir un petit peu que c'est quelque chose qui a été pratiqué beaucoup par des chrétiens au cours de l'histoire, avec beaucoup de profit. Et c'est beaucoup de chrétiens très connus qui ont utilisé cette méthode-là. Alors, on va regarder, par exemple, on peut citer quelques exemples. Andrew Bonar, par exemple, c'est un pasteur anglais qui est très connu, que le Seigneur a utilisé abondamment lors de réveils en Angleterre et dans la Grande-Bretagne. Il y a Charles Spurgeon, qui ne connaît pas Charles Spurgeon, le grand prédicateur baptiste anglais du 19e siècle. Robert Murray McShane, un gars qui est mort jeune, mais il a eu une vie tellement sanctifiée qu'il y a eu une très, très grande influence en Angleterre. Quelqu'un qui lit sa biographie est très béni parce que c'est un homme qui était engagé dans la vie chrétienne d'une façon extraordinaire. Il tenait son journal. T'as David Brainerd. J'en ai déjà parlé, David Brainerd. David Brainerd, c'était le gendre de Jonathan Edwards aux États-Unis, qui a été utilisé par le Seigneur. Il allait, lui, évangéliser les Indiens dans les années 1700, il faut le faire, là. Dans le bois, à dos de cheval, tout seul. Il a fait ça pendant des années. Et lui, il tenait son journal intime à tous les jours, et il inscrivait dans son journal intime les expériences qu'il vivait, des fois, il y avait des ups, des downs, mais tout ça, aujourd'hui, ça existe encore et on peut profiter de lire ça. C'est extraordinaire. D'autres, George Miller. George Miller, ben là, je vous cite des noms parmi les plus connus. George Miller qui s'est occupé d'orphelinat en Angleterre. Il s'est occupé jusqu'à 2000 orphelins. Il faut le faire, là. 2000 orphelins à cette époque-là, quand les gens tombaient dans la misère. En Angleterre, des années 1800, pas de bien-être social, les orphelins traînaient les rues et ça finissait tout par se transformer en criminel. Lui, il n'a jamais demandé une scène à personne par la foi en Jésus qui pourvoirait. Il a maintenu cette œuvre-là, il l'a fait grandir. Il y a des maisons d'orphelins il les a éduqués, il les a soignés. Puis, il n'y avait pas d'argent, puis il n'a jamais demandé une scène à personne. Puis, l'argent rentrait. Puis, durant toute sa vie, il a maintenu un journal. Aujourd'hui, telle date, voici ce qui est arrivé. Et tout ça, c'est encore disponible aujourd'hui. On peut lire ça. Et George Miller s'est considéré comme un des plus grands exemples de prière, d'hommes de prière que le 19e siècle a porté. Un homme exceptionnel, 19e et 20e, il a vécu un petit peu au 20e, un homme extraordinaire. Alors, c'est juste pour nommer quelques noms pour dire que, dans le fond, tenir un journal, c'est pas juste une affaire d'adolescents boutonneux ou d'adolescentes boutonneuses qui tiennent leur pensée secrète dans un petit livre. Ça a été utilisé par les hommes de Dieu. Et il y a plusieurs principes bibliques et des versets qu'on peut utiliser pour justifier. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Mais après avoir eu la leçon, ça me donne comme le goût. Parce qu'il y a des choses intéressantes, très intéressantes qu'on apprend en regardant ça. George Whitefield, qui était aussi un des grands prédicateurs américains, c'est-à-dire un Anglais qui est venu aux États-Unis dans les années 1700, des années 1700 surtout. Et il est parti d'Angleterre pour venir évangéliser les Indiens aux États-Unis. Et il a parcouru les États-Unis à cette époque-là, des années 1700, là, c'était à dos de cheval. Encore aujourd'hui, il est reconnu comme un des plus grands prédicateurs de tous les temps. C'était quelqu'un qu'on pourrait dire qui était de niveau de Charles Spurgeon. Et lors de ses ministères, il y a eu des réveils très, très grands. C'était un prédicateur. Même tu peux aller sur Internet, tu peux encore lire ses sermons. Tu peux entendre, parce qu'il y en a qui ont pris les sermons qui avaient été enregistrés, parce qu'il y en a qui prenaient ça en sténo. Et il les refont. Et c'était un homme qui était profondément béni par le Saint-Esprit, par Dieu, pour donner des réveils extraordinaires, des conversions en grand nombre. Alors, il a été utilisé par le Seigneur pour des grands réveils aux États-Unis. Alors, c'est tous des hommes que je viens de vous nommer qui ont tenu des journaux, et ces journaux-là, ils n'ont pas disparu, puis ils n'ont pas été brûlés après qu'ils sont morts. Il y en a qu'ils ont trouvé, ils ont gardé, ils ont imprimé, et tout ça, c'est encore disponible de nos jours. C'est très, 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 très riche. Moi, j'ai déjà lu un petit peu celle de George Miller, pas tout le journal au complet, mais je n'ai lu quelques pages. C'est vrai que c'est riche. Parce que les personnes versent leur cœur, voici ce qui s'est passé aujourd'hui, leurs difficultés, les réponses du Seigneur là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant comme méthode pour grandir dans le Seigneur. Jonathan Edwards, celui qui a écrit « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère », lui aussi, c'est un homme extrêmement connu. On dit de lui qu'il serait un des plus grands théologiens de tous les temps. Alors, il a beaucoup écrit, c'est un homme d'une intelligence exceptionnelle, même, je dirais, c'est un génie. Alors, à quelque part, cet homme-là aussi tenait un journal. John Eliot, qui est un missionnaire, qui est allé aux États-Unis, est allé dans les pays où il y avait, pour aller évangéliser, dans des pays où il y avait des Indiens, il fallait que tu rentres dans la jungle pour aller là. Alors, Eliot, lui aussi, c'est un missionnaire qui a tenu un journal durant toute sa vie, qui racontait ce qu'il vivait à chaque jour. Non seulement ses expériences, ses prières, ses victoires, ses peurs. Il raconte sa vie chrétienne intime, autrement dit. Donc, on va examiner un petit peu plus comment tout ça peut s'articuler. Alors, la journalisation, et on va regarder le premier point, c'est la journalisation et notre relation avec le Seigneur. Tenir un journal intime, il y en a beaucoup qui le font de façon quotidienne, c'est tous les jours, il y en a qui le font une fois par semaine, ou tu le fais à les entrées quand ça peut te tenter de le faire. Alors, c'est tout simplement écrire dans un livre différentes émotions que tu as vécu concernant ta relation avec le Seigneur, les difficultés que tu vis dans ta vie. Ça peut être aussi des choses que le Seigneur a permis que tu vives, qui ont été ressenties ou désirées, ainsi que des idées personnelles, des actions de grâce, des adorations à Dieu. Des fois, c'est des explosions de joie, puis d'autres fois, ben c'est des moments de découragement. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vit. Hein? Pour un chrétien, un journal, c'est un endroit où enregistrer par écrit les œuvres et les voies de Dieu dans ta vie. Alors, le journal, il peut inclure différentes choses, dont une description sommaire des événements quotidiens, tes relations interpersonnelles, parce qu'il s'en passe des choses dans une cour d'une journée, dans nos relations interpersonnelles, les relations qu'on a les uns avec les autres, comme chrétien, comme chrétienne, mais aussi dans les relations qu'on a les uns avec les autres, dans notre vie en général, et qui est très indicateur sur la manière dont on donne notre relation avec Dieu. Parce que normalement, quand on a des difficultés dans nos relations interpersonnelles avec les autres, c'est parce qu'il y a du péché dans notre vie ou du péché dans la vie des autres. Alors, c'est très révélateur du péché, très révélateur de tes faiblesses, très révélateur de ce que tu as besoin. Et ça peut être un moyen d'accéder à Dieu pour lui demander ce que tu as besoin. Parce que il n'y a rien comme le quotidien pour nous montrer qui on est. Puis comment on progresse dans la vie chrétienne, puis comment on régresse aussi. Alors, des fois, ça peut être un bon miroir. On se voit tel que l'on est, on voit les bêtises qu'on a faites, on voit les bêtises que les autres ont faites face à nous, etc. Et ça peut aussi, il y en a qui l'utilisent pour donner leurs observations sur ce qu'ils ont découvert dans les Saintes Écritures. Ça, moi de dire, je regrette de ne pas avoir fait ça dans ma vie. Parce que j'ai eu souvent des moments où soit en lisant, soit en lisant des commentaires, soit en entendant un sermon, des fois, là, ton esprit monte, ton âme monte vers le Seigneur. Et souvent, un journal peut servir à ça, inscrire ce que tu as découvert dans les Écritures ou dans un sermon ou dans un livre. Ça peut être aussi une liste de requêtes de prière. Il y en a qui vont se servir du journal pour marquer des requêtes de prière que tu entends tous les jours. Parce que si tu ne les marques pas, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a beaucoup de monde qui nous demande de prier pour eux autres. Puis vous remarquez comment que ça arrive pas très souvent qu'on prie pour tout ce qui nous est demandé. Parce qu'on l'oublie, tout simplement. Alors, des listes de requêtes des prières, des actions de grâce au Seigneur. Parce que prier, on peut. Le Seigneur nous dit de présenter nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est que t'habituer à tous les jours de marquer dans ton journal des choses que tu veux remercier le Seigneur. Puis il y en a plusieurs que je disais à l'intérieur de ça, qui se donnaient comme objectif de donner, disons, au moins 3 fois par jour, 3 fois chaque jour, des choses différentes que tu remercies le Seigneur. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on ne s'arrête pas des fois à y penser. Mais c'est bon d'avoir des moments où on exprime au Seigneur des actions de grâce pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Il nous en donne tellement. Parce que des fois, on a les yeux fermés. Il nous donne la santé, il nous donne la nourriture, il nous donne un toit, il nous donne un conjoint, et plein d'autres choses. La liste pourrait être interminable. Alors, il peut aussi servir à surveiller nos progrès dans les différentes disciplines spirituelles. Souvenez-vous, dès la première fois que je vous ai présenté, on voyait le gars qui jouait à la guitare, là, qui apprenait à jouer de la guitare. Ben, les disciplines spirituelles, tout ce qu'on a vu depuis le début, là, si on les pratique pas, dans le fond, tout ce que ça l'a servi, ça nous a fait rentrer quelque chose par une oreille et ça l'a sorti par l'autre. Je vous ai dit qu'on venait bon, le gars qui est venu bon comme ça, là, avec la guitare, c'est parce qu'il a pratiqué. Ben nous, les disciplines spirituelles, c'est exactement la même chose. Si on ne les pratique pas, ben on ne grandit pas, on n'a pas de croissance. Mais si on veut grandir, à quelque part, il faut noter ce qu'on fait par rapport à ces fameuses choses-là, tout ce qu'on a appris depuis 12-15 semaines, là, ça peut être un endroit où tu marques, bon, disons, on va prendre un exemple, la mémorisation des Écritures. On l'a entendu, mais on le pratique-tu? Mais si tu le marques, aujourd'hui, est-ce que j'ai mémorisé les Écritures? Fait que c'est des choses qui te ramènent face à tes devoirs, qui te ramènent face aux choses que tu dois pratiquer. Et aussi, il peut y avoir des objectifs spirituels. Tu sais, tu peux dire, ben là, je prie, disons que tu prierais 10 minutes par jour. Ou disons que dans une semaine, il y a des journées que tu pries pas. Puis tu prendrais comme objectif face au Seigneur, en demandant sa grâce, Seigneur, donne-moi que je prie à tous les jours. Puis si tu pries à tous les jours déjà, disons que tu prierais à 10 minutes, ben tu peux y demander 15. 20. Il y en a qui ont prié 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Des chrétiens, lisez-en des biographies. Vous allez voir que c'est pas juste des mots. Je vous dis, il y en a qui l'ont fait. Bon, à quelque part. Alors, je veux juste vous parler d'un pasteur britannique qui s'appelle Maurice Roberts, qui a vécu de 1938 à, je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'il n'est pas mort. Alors, lui, il a écrit la pensée suivante sur les bénéfices d'écrire un journal dans le but de ressembler davantage à Christ. Le but d'écrire un journal, c'est pas juste de déverser tes pensées là-dedans. Le but, c'est de ressembler davantage à Christ, mais en regardant toutes les facettes de ta vie et regarder comment ça peut t'amener à grandir et à te rapprocher de Dieu. Voici ce qu'il dit. La logique de cette pratique est inévitable une fois que les hommes ont ressenti le besoin dans leur cœur de vivre leur vie selon le modèle du Christ. Personne ne gardera trace de ses gémissements intérieurs, de ses peurs, de ses péchés, de ses expériences, de ses providences et de ses aspirations S'il n'est pas convaincu de la valeur de cette pratique pour son propre progrès spirituel. C'est cette conviction même qui en a fait une commune pratique dans le passé. Nous suggérons que cette pratique soit relancée et que quelque chose soit dit pour sa défense. Autrement dit, alors je vous ai nommé peut-être une dizaine de noms de chrétiens très connus. J'ai nommé surtout des hommes, mais il y a eu des femmes aussi, de plein. Faudrait faire une liste de tous ceux qui ont pratiqué la journalisation chrétienne, dans une perspective chrétienne, on pourrait en nommer des milliers. Parce que regardez des biographies, vous allez vous rendre compte dans les biographies de grands chrétiens, de grandes chrétiennes, qu'un très grand nombre d'entre eux tenaient un journal quotidien spirituel pour s'améliorer, pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Donc, le deuxième point qu'on va regarder, c'est la valeur spirituelle. Quels sont les bénéfices qu'on peut obtenir en pratiquant cette discipline-là? Alors, ça peut avoir une aide pour promouvoir la croissance spirituelle. Et là, je pense que, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y en a 8. En tout cas, on va commencer une par une, on va les commenter une par une. Qu'est-ce que ça peut nous amener? La première, c'est une aide pour se comprendre soi-même et s'auto-évaluer spirituellement. Et dans le fond, Romains 12, verset 3, nous dit « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, la Bible nous commande, nous invite à ne pas avoir une image de soi qui est trop élevée, qui soit balancée. Savoir vraiment, oui, on a des qualités, mais où on a des défauts, où on a des manquements. Alors, la journalisation, c'est pas vraiment une garantie pour conserver une image humble de soi, bien entendu, s'il suffirait de faire ça. Cependant, la pratique disciplinée et quotidienne, et là, quand on dit quotidienne, il y en a que c'est quotidien, mais il y en a que ça peut être une fois, deux fois par semaine. Il n'y a pas de règle, mais il y en a beaucoup que c'est à tous les jours. Donc, la pratique disciplinée et quotidienne ou autre, d'écrire les événements de la journée et de noter nos réactions face à ceux-ci peut nous amener à s'examiner plus en profondeur et plus sérieusement que nous ne l'aurions fait si nous le faisions à la lumière de la méditation et d'étude des Saintes Écritures et de la prière pour la direction et l'éclairage de Dieu dans nos vies. Autrement dit, c'est pas juste d'écrire les choses qu'on a vécues. C'est d'écrire les choses à la lumière de ce que tu connais de la Bible. Supposons que dans cette journée, tu as fait deux colères. Si tes notes, tu peux remarquer les circonstances qui t'ont amené à avoir des sautes d'humeur, à dire des paroles blessantes aux autres. Et dans le fond, c'est vrai que c'est comme un miroir. Ça nous montre nos manquements, ça nous montre nos misères, ça nous montre nos difficultés, et ça peut nous amener à prier. Alors, c'est là qu'on voit le lien qu'il y a entre l'enregistrement de l'événement qui est arrivé et la relation que ça peut nous amener à changer envers Dieu. Parce que là, on peut dire, « Seigneur, ça m'arrive souvent. » Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je réagis comme ça? Ça t'amène à réfléchir, à méditer et aussi peut-être à chercher dans les Écritures des solutions. Il y a plein de versets dans les Écritures qui nous parlent de colère. Alors, ça peut être une occasion pour toi d'aller fouiller, comprendre, mettre les choses de Dieu dans ton esprit par rapport au péché que tu as identifié. Ça, c'est un exemple, mais il peut y en avoir un paquet d'autres exemples. Jean Calvin, un homme un peu connu, il a écrit « Sans la connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance de Dieu. » Intéressant comme pensée. Autrement dit, il faut que tu te connaisses toi-même si tu veux connaître Dieu. Et les deux vont ensemble. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas te connaître, plus la chance que tu veuilles dépendre complètement de lui, Parce que plus tu vas te connaître, plus tu vas te rendre compte que t'es pauvre, t'es faible, t'es misérable, t'es fragile. Puis plus tu vas vouloir te dépendre de quelqu'un qui est riche, qui est fort, qui a toutes les ressources à sa disposition. Le lien, là, il se fait. Il exprimait, Jean Calvin, là, que l'examen quotidien de soi et de sa condition spirituelle amenait le croyant à rechercher Dieu plus activement à cause de la conscientisation de notre misère. Parce que ça peut, si tu es honnête dans ta façon de décrire tes événements que tu as vécu, tu vas te rendre compte de ta misère. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait encore là? Qu'est-ce que c'est? Voyons. Puis là, ça va te faire prendre conscience de ta misère, puis c'est une bonne chose. Parce que plus on va se connaître, plus on va savoir jusqu'à quel point on est pécheur, jusqu'à quel point on a besoin de Dieu pour nous soutenir. Donc, ça va amener le croyant à rechercher Dieu plus activement. Et ça va nous amener à identifier nos manquements, nos faiblesses, et ça va nous amener de vouloir dépendre de Dieu de plus en plus et de mieux en mieux, et dépendre de sa grâce. Vous remarquez comment quelque chose, des fois, qu'on n'est pas capable de régler. Supposons que tu as un trait de caractère qui est colérique. Comment tu voudrais dire du jour au lendemain, je vais arrêter ça, ça n'arrivera plus, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. D'après vous autres, ça va-tu fonctionner? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça identifie un péché avec lequel tu as de la misère. Et qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène une prière à Dieu pour t'amener à corriger. Et pensez-vous que quand on demande une chose pareille à Dieu, que Dieu ne répond pas? Ben oui, il répond. Parce que tu identifies un péché, puis tu lui dis, Seigneur, j'aimerais ça me débarrasser de ce péché-là. Par ton esprit, donne-moi ce qu'il faut. Alors tu demandes la grâce. C'est ça que le Dieu dit, Jésus dit, approchez-vous avec confiance au trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est tu demandes quelque chose que tu ne mérites pas, mais Dieu te la donne. Alors, un journal, s'il est utilisé d'une manière appropriée, n'est pas un outil ou un moyen pour se centrer davantage sur soi. Il peut, au contraire, nous propulser dans l'action pour soulager la misère des autres. Des fois, justement, ça nous amène à identifier qu'on a vu de la misère. Des fois, qu'on a tendance à fermer les yeux sur la misère des autres. Puis que ça nous amène, quand on note, bien, ça peut nous amener à dire à Dieu, Seigneur, je l'ai vu, mais je n'ai pas été capable d'agir, j'ai eu des manquements. Donne-moi ce qu'il faut pour que je change. Ça, là, je suis convaincu qu'il y en a... qui ont tenu des journaux intimes de si longtemps, durant toute leur vie, par des si grands hommes, bien, c'est parce qu'il y avait un bénéfice qu'ils retiraient de tout ça. Alors, le journal peut devenir un miroir dans les mains du Saint-Esprit, dans lequel il révèle sa perspective à lui, nos attitudes, nos pensées, nos paroles et nos actions. Si, à la fin d'une journée, là, toutes les bêtises, les niaiseries qu'on peut avoir dit, là, si le Seigneur, disons, il comprimerait en 3-4 minutes, mais il les ferait tout entendre. Pensez-vous que ce ne sera pas un bon moyen pour nous de dire à Dieu, j'ai un problème avec ma langue. Je veux bien essayer de la contrôler, là, mais je ne suis pas capable. C'est ça que ça dit dans Jean, qu'on n'est pas capable. Il y a juste Dieu qui est capable de te... Mais il n'y a rien comme prendre conscience de quelque chose qui te fait souffrir, que tu aimerais changer, puis que tu te rends compte que tu n'es pas capable de le changer, il faut que tu le demandes à Dieu. Et si tu le demandes à Dieu, Dieu agit. Moi, je suis convaincu de ça. Alors, comme la Bible nous dit que nous devons rendre compte de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, toutes nos actions, à quelque part, on a intérêt à... prendre l'habitude d'évaluer ce qu'on a dit, d'évaluer ce qu'on a fait. Alors, c'est très certainement le début de la sagesse. On va faire une deuxième, après je vais arrêter là, parce que une deuxième, c'est ça peut devenir une aide pour la méditation. C'est juste deux versets. Josué 1, chapitre 8, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. La Bible nous invite à méditer. Bien sûr, la parole est comme un tremplin pour nous arriver à le faire, mais aussi nos actions, noter nos actions, ça peut être une occasion pour nous de méditer sur qui on est, sur qui Dieu est, etc. Parce que des fois, c'est pas toujours compter nos misères. Des fois, c'est te rendre compte quelque chose que tu as découvert sur Dieu, que tu trouves extraordinaire, et c'est une louange que tu as marqué dans ton journal pour cette journée-là. C'est un remerciement pour ce que tu viens de percevoir, qui t'a donné comme bénédiction, etc. Un autre, le psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. C'est intéressant, hein? La réussite, bien sûr, je pense qu'on ne parle pas juste de réussite, de réussite financière ou de réussite aux yeux des hommes. On parle de réussite dans le domaine spirituel. On vit, bien sûr, dans une société qui ne nous invite pas à la méditation, mais alors pas du tout. Et la Bible nous commande de le faire. Quelque part, la Bible nous commande de le faire, on ne le fait pas. Et la société ne nous encourage pas à le faire. À quelque part, ça veut dire, déjà, si on écrirait pour aujourd'hui, on dirait, j'ai appris qu'il faut que je médite puis que je ne médite pas. Alors, Seigneur, fais-moi la grâce que je commence à méditer. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la prochaine séance.